C'est au tour de la Congrégation des Frères de la Charité d'être visée par une demande d'action collective pour des agressions sexuelles sur des enfants.
Oui, agressions sexuelles commises depuis 1940 dans une dizaine d'établissements d'enseignement qu'elle dirigeait au Québec. La demande déposée cette semaine en cour supérieure à Montréal est portée par un homme âgé dont l'anonymat est protégé. L'homme en question aurait subi des attouchements par un frère de la congrégation dans un collège au début de l'adolescence. 600 000 $ en dommages sont réclamés.
Trois opérations policières ont eu lieu aujourd'hui au Québec dans le cadre de la stratégie Centaure récemment mise en place là, pour lutter contre la violence liée aux armes à feu.
Il y a deux hommes de 27-29 ans qui ont été arrêtés aujourd'hui lors d'une perquisition dans une résidence de Gracefield en Outaouais où les policiers ont mis la main, entre autres, sur 24 000 comprimés de méthamphétamine, cinq armes également. Les policiers qui ont réalisé quatre perquisitions ont arrêté deux personnes qui seraient impliquées dans un réseau de trafic de cocaïne dans le secteur du Bas-Saint-François ainsi que sur le territoire autochtone d'Odanax et dans le centre du Québec. Par ailleurs, une opération contre l'importation d'armes à impulsion électrique a aussi été menée aujourd'hui. Ça s'est passé à Blainville, sur la Rive-Nord de Montréal.
Merci Valérie et bonne émission à 18h30.
Merci.
Parfait. OK. De quoi on va parler en fin d'émission, groupe?
On va se parler du Festival du Nouveau Cinéma qui débute ce soir. Je vais vous parler des faits saillants et je vais vous parler aussi d'une activité. Coudonc, on essaie de jouer au jeu du calmar, qui est cette violente série qui se retrouve sur Netflix dans le métro de Montréal. Et un peu partout à travers le monde, il y a eu des exemples de gens qui ont voulu se taper dessus là, pour faire comme dans la série.
Bon Dieu. Bon.
Et il y a une nouvelle de Valérie qui a fait réagir. C'est entre autres les gens qui, pour une raison religieuse, refuseraient de se faire vacciner. Et paraît-il que ce seraient les scientologues qui... Les leaders scientologues refusent à leurs fidèles de se faire vacciner.
Bon, mais bonne chance à tous, comme on dit. OK, on va parler de science, justement. Est-ce que la communauté scientifique peut jouer un rôle dans la lutte à la désinformation sur les plateformes comme Facebook, Twitter et YouTube? Ben, cette question-là, elle est au cœur de préoccupations de plusieurs scientifiques dans le monde parce que, bon, il ne s'agit pas juste de faire des découvertes scientifiques, de comprendre la science. Il faut aussi l'expliquer en termes clairs. Et on le sait, on l'a vu, là, on le sait depuis longtemps, mais on l'a vu depuis le début de la pandémie. L'information, c'est devenu un terrain de bataille. Et la semaine dernière, la grande revue scientifique Science a publié un éditorial dans lequel elle évoque l'échec carrément de la communication scientifique objective et en appelait là, à lutter efficacement, stratégiquement, en utilisant les algorithmes, par exemple, de Facebook pour combattre la désinformation, les théories du complot. On parle de tout ça avec Rémi Quirion. Il est scientifique en chef du Québec. Il a été nommé cet été président du Réseau international des scientifiques en chef et des conseillers scientifiques. Bonjour, Rémi Quirion.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, vous aussi, j'espère. Écoutez, c'est à la fois un beau temps pour la science parce que, ben, on l'a vu, hein, le développement de ces vaccins-là, ça s'est fait grâce à la science, ça s'est fait rapidement, mais c'est aussi un sale temps pour la science parce qu'il faut l'expliquer. Et des fois, on a l'impression que les scientifiques ont de la misère à utiliser les outils modernes pour communiquer.
Oui, c'est sûr que l'éditorial dans le journal Science a mis ça à l'avant-scène encore une fois, là. Donc, je pense qu'ici, il faut aussi expliquer davantage au public, aux élus, tout ce qui est relié à la méthode scientifique, là. Et c'est peut-être là que ça a causé un peu de difficultés, où finalement, le commun des mortels, et même, je dois dire, les élus, comprenaient pas. Bon, aujourd'hui, on dit, oui, le vaccin est bon, le lendemain, on n'est plus sûr, les masques et tout ça. Donc, c'est vraiment pour nous maintenant, ce qu'on essaie de faire, d'expliquer davantage la méthode scientifique, l'approche scientifique, et de dire comment on bâtit la science au jour le jour. Ça prend toujours un peu de temps, et c'est certain qu'avec la pandémie, on est arrivé avec un nouveau virus, on connaissait absolument rien. Donc oui, on a eu beaucoup de visibilité. Côté scientifique, plusieurs chercheurs sur la place publique, et ça, on a apprécié beaucoup. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Mais en même temps, c'est peut-être commencer à mieux expliquer un peu la méthode et aussi, un point important, augmenter la littératie scientifique et la littératie numérique de notre société, là. Comment ça fonctionne, ces réseaux sociaux-là, les différents algorithmes? C'est pas parce que c'est les deux, trois premiers qui sortent sur Google là, que c'est la vérité, la vie. Là. Vraiment, mieux comprendre tout ça, je pense qu'on devrait commencer en termes de littératie numérique dès l'école primaire. Là. Et expliquer avec dans le temps, quand les gens vieillissent et tout ça, là, comment ça fonctionne les réseaux sociaux. ces algorithmes-là, et les chercheurs devraient être impliqués davantage là-dedans et aller sur Facebook, aller sur les Twitter, sur les TikTok de ce monde et être très présents, parce que sinon, si on laisse la place aux complotistes ou aux fausses nouvelles, ben on gagne rien, non.
On comprend que il y a autant de talents en communication scientifique qu'il y a de scientifiques. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Vous avez parlé des médias. On a reçu plusieurs scientifiques à ce micro depuis un an et demi qui ont fait un beau travail de pédagogie. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment vous avez évalué, Rémi Quirion, la performance de communication, d'explication, de pédagogie de celui qui était le visage de la science au Québec pendant cette pandémie-là, le docteur Arruda?
Je pense que Horacio Arruda a fait un travail quand même assez exceptionnel. Là, je voudrais pas être dans les souliers du premier ministre, du ministre de la Santé et d'Horacio. Là, c'est depuis près de 2 ans maintenant, tous les jours sur la corde raide, et encore une fois, avec des données qu'on bâtit presque au jour le jour. On connaissait rien de ce virus-là. Fait que c'est certain que, oui, il a fait des erreurs, comme j'en aurais certainement fait moi aussi si j'avais été vraiment sur la place publique à tous les jours. Mmh. Il y a eu de l'aide aussi de collègues. Les chercheurs se sont beaucoup impliqués. On en a vu plusieurs qui ont été excellents, là. Et maintenant, c'est de s'assurer qu'on ne revient pas en arrière, là. Une fois que cette fameuse pandémie-là, on va sortir de ça, mais s'assurer que nos chercheurs, que les directions de santé publique aussi, continuent à interagir avec les médias, continuent à interagir avec le grand public pour expliquer davantage ce qu'on fait, là. Et peut-être pour nous, mieux former les chercheurs aussi en communication scientifique.
Justement, parlant de science et de communication scientifique, si vous permettez, on va écouter un médecin québécois qui œuvre sur TikTok. C'est une plateforme de médias sociaux. Lui, il fait des vidéos où il explique la science et il démonte les mythes des informateurs. Son nom sur TikTok, c'est Walmart Justin Trudeau.
L'étude suggère qu'il n'y a pas de lien entre le taux de vaccination dans une population puis le nombre de cas de COVID qu'ils ont. En fait, on dirait même que plus une population est vaccinée, puis plus il y a de cas de COVID. Mais l'étude est très biaisée, puis je suis pas sûr qu'on peut en conclure quoi que ce soit. Par exemple, imaginez-vous des pays où le taux de vaccination est de 10 ou 20%. Des pays qui n'ont pas assez d'argent pour acheter des vaccins. Ben, pensez-vous qu'ils ont assez d'argent pour acheter des tonnes de tests de dépistage pour toute leur population? Ben, clairement pas. Donc, c'est sous-diagnostiqué. Maintenant, imaginez-vous des pays avec 80% de vaccination. Pensez-vous que ces pays sont suffisamment riches pour acheter autant de tests diagnostiques qu'il faut, voire même de dépister des asymptomatiques? Bien oui. Puis plus on teste, ben plus on a de cas, c'est normal.
Écoutez, on est à la radio, là, ça trahit mal l'efficacité de ces vidéos sur TikTok à ce médecin-là. Est-ce qu'il va pas falloir donner des cours de production vidéo aux scientifiques pour qu'ils puissent se battre avec les désinformateurs avec les mêmes outils?
Oui, tout à fait. Et peut-être comme il y a des règles éthiques du côté des journalistes, des communicateurs scientifiques, ils devraient en avoir aussi pour les professeurs d'université, pour les chercheurs, savoir comment faire. Et c'est pas parce qu'on a un titre de prof d'université qu'on peut parler de tout et de rien, là. Ou un médecin, c'est un peu la même chose, là. Donc, il y a des secteurs où on est plus compétent que d'autres. Et c'est pas parce qu'on a un titre d'universitaire qu'on peut parler, par exemple, de la pandémie demain matin, là.
OK. À qui vous pensez?
Ben, je pense pas nécessairement. Il y a eu quand même des articles dans les journaux de signés par des profs d'université. Il y a aussi, bien sûr, notre collègue, ben, c'est pas mon collègue, mais le professeur, le chercheur en France, là.
Didier Raoult.
Oui, c'est ça. Il est vraiment, là, encore une fois, en utilisant le titre de professeur, de chercheur.
Mais lui, c'est un vrai professeur et chercheur, là. C'est quelqu'un qui se connaissait en maladies infectieuses, là.
Oui, mais qui est controversé depuis plusieurs années. Ça n'a pas commencé vraiment avec la pandémie. On a des prix Nobel aussi, un prix Nobel, un des découvreurs du sida, qui après a changé. Oui, ça a vraiment changé complètement. Il y avait Linus Pauling qui avait 2 prix Nobel, puis il est parti avec son histoire de vitamine C. Fait aussi, là, on doit avoir des règles éthiques. Peut-être qu'on n'en a pas suffisamment de ce côté-là, du côté des chercheurs et des professeurs d'université, là.
Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où on enseigne bien la science, puis on peut éviter de créer des adultes qui vont croire n'importe quoi pourvu que la personne qui parle porte un sarrau?
Ben, je pense qu'on doit. Il y a des progrès à faire un peu partout. Pour toutes sortes de raisons, là, au niveau des systèmes d'éducation, peut-être que la science a pris un peu ça a été mis un peu de côté. Il y avait tellement d'autres choses et peut-être qu'il n'y avait pas assez d'expertise de plusieurs de nos enseignants, de nos professeurs. C'était pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'il n'y avait pas la formation. Donc, je pense qu'il faudrait le revenir, que la science soit enseignée pas juste lors d'activités parascolaires, les week-ends, mais vraiment que ça fasse partie du cursus dès l'école primaire jusqu'à l'université, si on veut.
Écoutez, en termes de désinformation scientifique, là, vous êtes Rémi Quirion, un scientifique de formation, vous êtes le scientifique en chef du Québec. La chose la plus renversante, la bêtise la plus renversante que vous avez pu voir depuis 18-19 mois, ça a été quoi?
Ben, c'est quand on continue toujours à dire que ce virus-là n'existe pas, ou s'il existe, il a été créé par Bill Gates pour essayer de contrôler davantage le monde. Ça, c'est sûr que c'est assez particulier. Du côté des vaccins, étant donné que les vaccins, et ça a été fabuleux en termes d'histoire de la science, développés très rapidement, les vaccins à l'ARN, ça a été fabuleux. Les gens disent, bah oui, mais c'est expérimental. Maintenant, il y a eu des millions de personnes dans le monde qui ont été traitées avec ces vaccins-là, avec très, très peu d'effets secondaires. Donc, c'est assez fabuleux, mais on continue à dire non, c'est expérimental, on ne doit pas faire confiance, là, c'est très malheureux de ce côté-là.
Le prochain terrain de bataille pour la désinformation qui va affronter la science, d'après vous, Rémi Quirion, c'est lequel?
On va continuer un peu, là. C'est du côté des changements climatiques, qui est un des grands défis de nos sociétés. C'est pas au Québec, là. C'est partout dans le monde. Et là, il y a encore des gens qui croient pas, là. Parce que c'est sûr que c'est un peu moins concret, peut-être, que la pandémie. Donc, arriver à trouver des moyens, et on les a peut-être pas nécessairement encore. Dire, par exemple, les changements climatiques, ça veut dire quoi pour moi? Dans ma ruelle, pour ma famille, à Montréal, ou à Québec, ou à Rimouski, là. De rendre ça beaucoup plus concret. Parce qu'on doit tous s'y mettre, sinon on n'y arrivera pas. Là. C'est un défi majeur pour le futur de la planète.
Merci et bonne soirée.
Merci beaucoup. À la prochaine.
Salut, c'était Rémi Quirion, le scientifique en chef du Québec, 18h15.